Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est podcasting et marketing en ligne. Je suis votre hôte, Safia Gouhari, et je fais de ma mission d'aider les entrepreneurs du web à vivre de leur activité. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à vous préparer à enfin changer les choses. Peut-être que le terme d'OBM vous est familier et peut-être qu'il vous est totalement inconnu. L'OBM, c'est l'Online Business Manager. C'est une personne qui va travailler avec vous, qui va être une sorte de bras droit et qui va donner vie à vos projets et qui va vous aider à optimiser votre business, sa structure et son activité. C'est un métier qui se développe de plus en plus en France, mais qui reste un peu assez peu exploité d'un point de vue entrepreneur qui souhaite déléguer et qui souhaite passer, entre guillemets, au niveau supérieur avec son entreprise. Je reçois aujourd'hui sur le podcast Marielle Cuirassier, que vous connaissez peut-être sous le pseudo « Et si on avançait ?». Elle est consultante en gestion du temps, mais aussi OBM. Donc ensemble, dans cet épisode, nous allons discuter finalement de ce qu'est un ou une OBM et quelle est sa place dans une entreprise. C'est quoi la différence entre une OBM et une assistante virtuelle? Quels sont les tarifs pratiqués? Quelles sont les tâches finalement à réaliser par une OBM, quelles sont les qualités à avoir pour faire ce genre de travail. Essentiellement, toutes les informations dont vous avez besoin, non seulement pour découvrir ce métier et surtout avoir une idée concrète de si c'est fait pour vous et vos besoins actuels ou pas, et de votre côté, si vous êtes dans l'idée de lancer une activité de prestation de service mais que vous ne savez pas comment ni quoi faire, peut-être que ce métier est aligné avec votre personnalité et vos compétences. Donc sans plus attendre, eh bien je vous laisse avec notre échange. Salut Marielle, comment vas-tu ?
Ça va super Safia, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Ben moi aussi, pour parler d'un sujet inédit, donc c'est toujours une excellente chose. On va parler de Online Business Manager. Alors c'est un nom qui peut être un peu barbare, tu vois, quand on le dit comme ça. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quelques lignes pour l'instant, juste ce qu'est ce métier ?
Déjà, on va commencer par la traduction en français, comme ça tout le monde, on a c'est les vrai. Bases. Gestionnaire d'entreprise en ligne, grosso modo. Donc ça,
c'est moins sexy.
C'est moins sexy, c'est pour ça que moi j'utilise la version anglophone, tu vois, c'est toujours ça le dilemme. En français, ça fait gestionnaire d'entreprise en ligne, ça fait un peu bizarre, alors que Online Business Manager, tu vois, ça passe sans mieux. Moi. Mais en gros, du coup, si vous connaissez un peu le métier de directeur des opérations dans le salariat ou alors chef de projet, on peut avoir différents noms, COO aussi des fois dans certaines startups, ben, en fait, l'Online Business Manager, c'est exactement la même chose. Mais suivant l'entrepreneur qui recrute son business manager, bien sûr, il n'aura pas les mêmes missions, mais grosso modo, c'est cette fonction-là.
Ok, alors tu es donc, alors je vais dire OBM tout au long de l'épisode hein, pour les gens parce que c'est plus simple, donc Online Business Manager. Donc tu es OBM, tu es aussi consultante en gestion du temps et est-ce que je peux dire productivité aussi ?
Oui, même si j'aime pas trop, je suis pas fan du terme, tu vois, de plus en plus, ouais. Mais c'est quand même ça, je parle beaucoup d'efficacité surtout.
Alors, ma première question c'est finalement, qu'est-ce qui t'a, toi, amené à lancer une activité dans la thématique de la gestion du temps et de l'organisation. Est-ce que tu es une personne naturellement organisée ?
Oui, je vais pas mentir, c'est vrai que je suis naturellement organisée, tu vois. Je pense que l'organisation peut s'apprendre, mais il y a des profils comme ça, en fait, en fonction des types de personnalités, où, en fait, l'organisation, ça rassure. Et moi, depuis mon adolescence, l'organisation me rassure, tu vois. Avoir des plannings, savoir ce qu'on va faire, c'est plus une source de bonheur pour moi qu'une contrainte, tu vois.
C'est original.
Donc, en partant de cette hypothèse-là, tu vois, c'est quelque chose d'assez instinctif pour moi de m'organiser, parce que sans, je me sens vite débordée, vite perdue et aussi complètement inefficace, tu vois.
Ouais. Et du coup, tu... En fait, je t'avais demandé, mais t'as eu un job avant d'être... Un job salarié, pardon, avant d'être entrepreneur.
Mais oui, pendant 7 ans, en fait, j'étais responsable qualité, moi. Bon, d'abord, j'ai été un tout petit peu laborantine, donc technicienne de laboratoire. J'ai vite compris que c'était pas pour moi, c'était une petite erreur d'orientation, de parcours, tu vois, parce que j'aimais bien la technique, etc. Et après, j'ai rebondi, j'ai pu faire des études dans management des organisations, justement. Tu vois, on commence à toucher à tout ce qui concerne les missions d'un OBM. Donc, en fait, ça me poursuivait depuis longtemps et pendant 7 ans, j'ai été responsable qualité. 7 ans, okay. Mélangeant et en étant aussi à temps plein dessus, tu vois.
Et ça fait combien de temps que tu es entrepreneur, du coup ?
À temps plein depuis octobre 2020. Mais sinon, j'ai eu un side business pendant 1 an et quelques. Donc, en fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat vraiment à proposer des prestations de services, etc., des formations en 2019, novembre 2019.
Ok. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé dans cet ordre-là, mais il me semble que tu as effectivement fait de la prestation de service. Ensuite, tu t'es lancé dans le coaching ou la formation, puis tu t'es rendu compte que ça ne te comblait pas à 100% et que tu avais envie de garder cet aspect prestat de service. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que, en fait, sur Internet, on voit tellement de conseils pour lancer ses propres offres et ses formations, générer des revenus passifs, etc., qu'on peut avoir l'impression que faire de la prestation de service, c'est juste pour démarrer. Tu vois ce que je veux dire ? Et au final, toi, t'es l'exemple que non, en fait, tu fais ce que tu veux. Et si t'as envie de faire les deux, bah, tu peux aussi.
C'est ça. En fait, dans mon cas, effectivement, tu n'as pas tort. En fait, j'ai énormément testé. Et je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est qu'au début, tu fais des choix, tu testes un peu jusqu'à trouver un peu ce qui te convient. Et là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le business model qui me convient avec un peu de prestation de service où c'est clairement du plaisir puisque j'ai la chance de choisir mes clients, de choisir les projets, tu vois, puisque j'ai défini un budget temps précis justement pour pas me laisser dépasser par les événements. Ouais. Et à côté, du coup, l'infoprenariat avec la vente de formation en ligne, tu vois, et quelques workshops par-ci et par-là. Mais c'est vrai que j'ai commencé par le coaching individuel en gestion du temps. J'ai vite compris que ça me saoulait un peu de me répéter puisque le coaching, c'est pas la même chose qu'une prestation de service, tu vois. Le coaching, c'est vraiment, je me suis rendu compte que les problématiques étaient très récurrentes, que je m'adotais énormément et j'ai vite eu envie de tout mettre dans une formation en ligne parce que, en fait, je m'épanouissais plus dans ce format-là, tu vois. Mais j'ai commencé par ça et ça m'a énormément apporté puisque j'ai pu, du coup, connaître vraiment les problématiques de mes clients, etc., tu vois. Donc, c'était très bien pour commencer. Ensuite, j'ai démarré la formation en ligne. Donc, j'ai sorti plusieurs petites formations. En réalité, j'en ai sorti deux. Une sur un outil que j'utilisais à l'époque, Trello. Et une autre formation qui a évolué, qui est même passée à un moment donné à un membership, qui est redevenue une formation en ligne, tu vois.
Je crois qu'on passe tous par là. On en a besoin de ce test et de se dire « j'aime pas
». Ouais, c'est ça.
Ça me convient pas, mais au moins, j'ai essayé.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc, j'ai testé. Et cette formation, elle est encore là et c'est ma formation principale. Et là, à l'avenir, j'aimerais vraiment continuer à développer toujours l'aspect formation, donc garder, et si on avançait, l'aspect gestion du temps, mais du coup 100% formation en ligne et parfois des ateliers, et mes prestations de service dans lesquelles je ne m'ai pas mis, parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que mon métier me manquait. Je ne fais pas partie des personnes qui ont arrêté le salariat parce que, oh là là, je déteste mon métier. Tu vois, moi, j'aimais bien mon métier, j'étais responsable qualité, ça me passionne la gestion de projet. Et donc, j'avais à chaque fois que j'avais des difficultés dans mon business, j'étais à deux doigts de retourner sur Pôle emploi, tu vois, enfin, d'aller chercher un truc parce que du coup, je me disais, mais en vrai, ça me plaisait bien. Mais quand même, tu vois, l'entrepreneuriat, tu as la flexibilité, tu as la liberté de gérer ton temps comme tu veux. Et ça, je sais qu'il y a très peu d'emplois salariés qui pourraient me donner ce bénéfice-là. Donc, juste pour ça, et que j'y ai goûté et que je kiffe, je ne peux plus me permettre de retourner en arrière. Bon, ce n'est pas un échec, tu vois, si jamais ça doit arriver, ça arrivera. Mais en tout cas, avec toutes les possibilités, justement, dans le milieu de l'entrepreneuriat, je savais que c'était possible de faire différemment, tu vois. Et j'ai découvert ce métier-là qui représentait finalement la suite de ma carrière dans le salariat, mais dans le business en ligne. Ça a été un gros déclic, en fait. Je me suis dit, mais c'est dingue, ce que je voulais faire dans le salariat existe dans le business en ligne et je peux le faire avec, en format prestation de service, avec la flexibilité que je veux, avec les clientes que je veux, avec les tarifs que je veux, mais que demande le peuple en fait, tu vois. Donc j'étais trop heureuse.
Et j'avoue que c'est finalement, c'est arrivé au bon moment, tu vois, c'est exactement ce que tu voulais. Donc c'est bien que t'aies persévéré et que t'aies attendu un peu avant de te dire « je vais retourner au salariat », mais c'est une excellente chose. Est-ce que tu peux me donner des exemples de tâches que réalise une OBM ?
Alors une OBM, comme je l'ai dit, ça va beaucoup dépendre des besoins de l'entrepreneur qui la recrute, mais il y a plusieurs, enfin qui l'a ou le, hein, c'est pas quelque chose d'exclusivement féminin, hein, mais du coup, il y a une grande partie de gestion de projet. En fait, l'Online Business Manager a cette casquette-là qui va être de planifier les projets. Donc, tu vois, tu vas avoir des lancements de produits, des lancements de nouvelles offres ou même des projets en interne, le déploiement d'un nouveau logiciel, j'en sais rien. Bah, souvent, les Online Business Managers sont capables de chapeauter des projets comme ça de A à Z, que ce soit du brainstorming des idées, de la planification du projet, de la recherche des ressources humaines pour que tout soit nickel, le suivi du projet, tu vois. Souvent, on est garant en fait que les trains soient à l'heure, donc que les deadlines soient respectées, de coordonner tout ça. Donc, tu vois, il y a cette grande partie de gestion de projet. Après, tu as de la structuration, donc tout ce qui concerne la structuration du business, tu vois, la création de process, le fait d'avoir des process très clairs, de faire un peu d'automatisation, voilà, de gérer en fait l'intérieur du business, tu vois, ce qui généralement ne passionne pas certaines personnes, tu vois. Ben, généralement, quand tu as un profil un peu comme le mien, tu vois, t'aimes trop prendre soin de l'intérieur du business, tu vois, t'es plus axé intérieur que développement. Donc, du coup, tout ce qui concerne ça. Et après, tu vas avoir aussi le management. Parce que quand tu es Online Business Manager, tu peux soulager aussi l'entrepreneur de... Parce que tout le monde n'est pas manager. On se débrouille beaucoup quand on débute, tu vois. On fait des recrutements de freelance et on manage, on se débrouille. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, ben, celles avec qui je travaille, elles détestent le micromanagement, tu vois, le fait de revoir ce que tel freelance a fait ou alors savoir où ça en est, tout ça. Elles détestent cette partie-là. Et du coup, en tant qu'Online Business Manager, quand tu gères un projet et même sans gérer un projet, ben, tu peux aussi... être amené à manager une équipe, à coordonner les choses, etc. Donc, je dirais, les trois piliers, c'est ça. Mais après, tu peux avoir aussi une grande partie stratégique, tu vois, si tu es recruté un peu comme un bras droit. Donc, vraiment en mode numéro 2, où la personne veut vraiment collaborer avec toi, bah, du coup, tu interviens sur des aspects stratégiques aussi, tu vas... Et puis, dans le business en ligne, quand tu es Online Business Manager, donc on parle bien de business en ligne, tu dois avoir une bonne connaissance du milieu de l'entrepreneuriat en ligne. Ouais. Donc forcément, tu vois, t'interviens à des niveaux, des stratégies de lancement, tu vois, tu t'arrêtes pas juste à la planification, t'as aussi une casquette de coach consultant, tu vois, qui se mêle un peu là-dedans.
Et au final, c'est ce qui différencie ce métier-là d'une assistante virtuelle qui a plus vocation à être dans l'exécution de tâches, alors qu'un ou une OBM va être là pour amener la réflexion, on va dire, sur le business et surtout sur son évolution.
Exactement. Par exemple, dans les points de différence, parce que beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence entre l'assistante virtuelle et l'OBM, bah, typiquement, une assistante virtuelle, par exemple, elle a la responsabilité de l'exécution de ses propres tâches, versus un OBM va avoir la responsabilité de l'exécution de tout le projet, tu vois. Donc, le niveau de responsabilité n'est pas le même. Le niveau de réflexion n'est pas le même non plus. Comme tu disais, tu as différents profils aussi d'assistante, mais la plupart du temps, c'est beaucoup d'opérationnel, alors que que tu verras que le business manager, lui, il va faire très peu d'opérationnel. Finalement, ça va être beaucoup de stratégie, de planification, de suivi, des choses finalement qui sont pas forcément tangibles, mais qui assurent que les choses roulent, tu vois. Mmh. Donc, ce sont les grandes différences. Et puis, tu vois, tu vas avoir souvent l'assistante va faire partie de l'équipe et va pas avoir à manager. Et très souvent, l'OBM peut manager des freelances et suivre, voilà, faire du recrutement aussi.
Alors, la question qui me vient tout de suite, je pense notamment aux personnes qui vont nous écouter, comme je sais qu'il y a différents profils parmi les auditeurs et auditrices de mon podcast. Est-ce qu'il y a un moment plus propice à avoir une assistante virtuelle ou à avoir une OBM ? À partir de quand, finalement, tu peux commencer à travailler avec une ou un OBM ? Parce que je pense personnellement que forcément, au démarrage, c'est pas forcément ce dont tu as besoin, mais qu'il arrive à un moment dans chaque business où c'est indispensable d'avoir une personne qui va s'occuper de tout cet aspect-là.
Alors, les histoires sont différentes. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé que des personnes débutantes, mais qui ont déjà d'autres business à côté, tu vois, qui vont démarrer une nouvelle activité, qui savent déjà ce qu'ils veulent et qui ont le budget aussi, parce que c'est un budget plus élevé qu'une assistante virtuelle, ben, veuillent recruter. Mais sinon, le point commun des personnes qui ont besoin d'un OBM, c'est souvent qu'ils sont dans la phase où ils sont en train de scaler. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un business qui leur apporte un revenu récurrent stable. Et ils sont dans la phase où ils veulent faire une expansion, c'est-à-dire commencer à recruter en masse peut-être, diversifier leurs offres, peut-être faire un pivot aussi, commencer à faire des prestations, genre par exemple, tu construis ton agence, tu étais en freelance et justement tu passes en mode agence. Ou alors tu étais infopreneur et tu avais un seul programme en ligne, mais là, tu veux l'ouvrir à beaucoup plus de personnes, tu vois. Donc, en fait, souvent, un entrepreneur qui est en pleine croissance va avoir besoin d'un OBM, d'un ou d'une OBM, pour justement l'accompagner dans cette phase clé, parce que c'est une charge mentale incroyable, mais aussi ça permet à la personne de se concentrer aussi sur sa vision, sur les aspects stratégiques et un peu déléguer justement toute cette partie qui ne le passionne peut-être pas. Bon, il y a des entrepreneurs visionnaires qui aiment quand même ça, mais très souvent, tout ce qui est planification, etc., on ne va pas dire que c'est là où la valeur ajoutée d'un entrepreneur qui est en train de scaler. C'est pas forcément là où ça va être pour lui. Donc, du coup, l'OBM débarque à ce moment-là, apporte des idées fraîches, permet de canaliser aussi, parce que du coup, il y a plein d'idées. Généralement, ça peut partir dans tous les sens, tu vois. Donc, on est là aussi pour conseiller, trouver les bonnes idées, les sélectionner, permettre d'aller au bout des choses, parce que c'est ça aussi. Très souvent, on lance plein de trucs et puis on va pas au bout des choses. Voilà. Je dirais des personnes qui sont en train de scaler, d'étendre leur entreprise.
C'est marrant que tu dis ça parce que c'est exactement mon profil. C'est-à-dire que je suis le genre de personne... Alors déjà, moi, j'ai cette particularité qui est un défaut, je trouve. C'est que j'arrive pas à me projeter, en fait. Si tu me demandes ce que je fais l'année prochaine, à ce moment-là, je n'en ai aucune idée. Je suis le genre de personne qui a 6 idées de l'année dans la journée. Et je suis en mode, ah, putain, ça, c'est une trop bonne idée. Et en fait, il y a toujours plein de trucs que je vais faire en même temps. Et le fait d'avoir quelqu'un qui soit là pour me dire, ok, stop... Est-ce que c'est réalisable sur le papier ? Certes, c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que ça entre dans les objectifs que tu as placés pour l'année ? Et franchement, ça fait du bien parce que effectivement, c'est facile en fait de perdre du temps et de s'emballer dans plein de choses quand on n'a pas une personne qui garde un peu les pieds sur terre et qui a en tête finalement qui tient, si tu veux, la barque du bateau, quoi.
Si tu veux, il y a un super livre qui m'a permis de découvrir ce métier-là, c'est le livre Rocket Fuel. Je te donnerai la référence après, tu vois.
Ouais.
Mais dans ce livre, en fait, bon, il est en anglais, mais dans ce livre, on parle en fait de la complémentarité de deux profils d'entrepreneurs, tu vois, le visionnaire et l'intégrateur. Et typiquement, ce que tu viens de me raconter, c'est la problématique de mes clients cibles, en fait, les visionnaires qui ont plein d'idées. Qui ont un potentiel incroyable, mais qui peuvent vite se sentir dépassés ou alors spammés, ou même peuvent carrément rentrer dans un cercle vicieux de stérilité, ne plus rien faire, parce qu'il y a trop d'idées, parce qu'il y a trop de deadlines, parce qu'ils sont plus en maîtrise, en fait, de tout leur potentiel, tu vois. Et à côté, t'as les intégrateurs, ou à l'écoute d'une des idées que tu peux sortir, bon, on a déjà tout le plan d'action, les deadlines, il faut, voilà. Et moi, j'ai un profil typiquement comme ça. Tu vois, tu me parles d'un projet qui m'emballe, mais moi, je pense déjà à tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Je te dis les deadlines, tac, 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 tu vois. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et c'est ça que je trouve beau dans mon métier, c'est cette complémentarité, en fait. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un côté visionnaire, mais j'aime le fait que, en fait, que l'entrepreneur arrête de vouloir à chaque fois développer ses points faibles, parce que tu vois, des fois, on va tenter de faire des tableaux Notion, suivre des KPI, de dingue et tout. Et en fait, on n'est pas forcément en maîtrise, donc c'est bien quand on débute. Mais je pense qu'on a tout à gagner quand on commence à avoir un certain budget, à déléguer certaines choses où on n'est pas dans sa zone de génie, tu vois, pour pouvoir être dans son plein potentiel. Et voilà, chacune, moi, celle avec qui je travaille, on est chacune dans notre zone de génie et c'est magique, en fait, tu vois. Elle débarque juste avec son idée. Moi, je fais « Ah, mais oui, carrément, tac, 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 le plan d'action, il est pondu, on suit le truc, ça se concrétise, on va jusqu'au bout des choses ». Et je trouve le binôme visionnaire intégrateur précieux quand on est dans une aventure entrepreneuriale, tu vois.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne complémentarité qui apporte finalement un certain équilibre qui permet d'avancer tout en ayant cette part de créativité et de création qu'on aime bien dans notre job. Puisque tu parlais de budget, c'est quoi l'investissement pour travailler avec une OBM, on va dire dans une fourchette, parce que j'imagine bien qu'il n'y a pas de grille tarifaire, mais dans l'idée, si il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent « Ok, c'est ce dont j'ai besoin », combien ils doivent avoir finalement de budget alloué à ça, on va dire, je sais pas, chaque mois ?
Alors, le budget horaire, en fait, ça va dépendre parce que tu vois, il y a des entrepreneurs avec qui je travaille 20 heures par mois, tu vois. Et certains vont avoir un besoin. Moi, je sais que j'ai eu un contrat l'année dernière où j'étais 3 jours par semaine. Donc, ça n'a rien à voir.
Okay.
Au niveau du quota horaire, ça dépend du besoin de la taille de l'entreprise et du besoin de l'entrepreneur. Mais sinon, je vais parler de tarif horaire ou de forfait journalier. Comme ça, ça parlera à tout le monde. Généralement, moi, les tarifs que je vois dans le milieu, c'est par exemple en tarif horaire, c'est pas moins de 50 euros. 50 euros, c'est une OBM débutante qui va même avoir cette casquette bras droit, tu vois, ce ne sera même pas vraiment de l'online business management, mais qui va commencer à tendre vers ça. Donc, 50 euros de l'heure et ça peut aller à beaucoup plus. Dans le milieu anglophone, je ne te dis même pas ce que je peux voir, tu vois, mais 50 euros de l'heure à compter. Et après, tu as aussi l'option forfait jour où, tu vois, il y en a qui vont commencer à 450 euros, 400 euros et plus, en fait, en fonction de tes compétences, de ton expérience, tu vois, de ton expertise. Et voilà pour vous donner en termes de budget. Donc, tu vois, ce n'est pas exactement le même budget qu'une assistante. Donc, c'est pour ça que je pense que quand on recrute un OBM, il faut quand même bien réfléchir parce que c'est un investissement quand même. Moi, je trouve que ce n'est pas rien. C'est un investissement. Et donc, autant savoir où on va, être sûr en fait de vouloir travailler en équipe, tu vois. Et s'assurer que, enfin, réaliser que c'est un investissement. Parce qu'en fait, tu vois, le truc qui est un peu vicieux, c'est que l'assistante, elle va faire de l'opérationnel. Donc, tu vois, ça va être très concret. Ta tâche, elle sera faite. Alors qu'une online business manager, bon, elle va faire le planning, etc. Mais il y a une grande partie de ces missions qui seront un peu implicites. Tu vois, c'est du suivi, du micromanagement, des choses comme ça. Et des fois, tu n'as pas l'impression vraiment de voir la valeur des choses, tu vois. Et donc, ça se réfléchit quand même et je pense que c'est important de peser les choses. Mais quand tu es dans une démarche de développement, je sais que dans beaucoup de masterminds, quand les entrepreneurs commencent à justement vouloir scaler et rejoindre des masterminds, on leur parle d'un profil intégrateur parce que ça commence à devenir indispensable pour créer quelque chose de grand. Tu vois, dans le livre que je t'ai mentionné, en fait, il te cite énormément de personnes très connues, Steve Jobs, Walt Disney. En fait, ils ont tous eu un intégrateur à côté. Ce sont les visionnaires, tu vois, qui sont exposés. Mais derrière eux, il y a toujours un intégrateur qui est là en train de manager leurs idées, s'assurer que les trucs aillent au bout des choses, tu vois. Et voilà.
Ok, et du coup, c'est plus intéressant. Est-ce que ça a de la valeur de travailler avec un ou une OBM sur un court laps de temps, ou est-ce que c'est mieux de poser une vraie relation avec ce genre de personne, tu vois ?
Alors, l'un ou
à
l'autre...
La différence, si tu veux, d'une assistante virtuelle, comme c'est de l'exécutif, parfois, tu vas en avoir besoin, entre guillemets, un mois, et après, le mois d'après, peut-être pas, tu vois ?
En fait, ça dépend. Par exemple, moi, j'ai proposé des prestations de services en mode lancement. Par exemple, tu vas lancer un produit. Ça, c'est très bien pour les entrepreneurs qui ne sont pas en train de scaler, mais qui ont besoin d'un profil intégrateur pour justement une période ponctuelle. Donc, je dirais que les deux se valent, en fait, mais que l'approche n'est pas la même. Quand tu recrutes un ou une OBM pour du long terme, tu vois, généralement, c'est vraiment directrice. En fait, dès qu'il y a du management, C'est une vision long terme quand même, parce que tu vois, ouais, la personne, elle est vraiment intégrée à ton équipe et il y a un suivi, etc. Mais c'est pas gênant de recruter un ou une OBM pour un projet ponctuel. Tu sais que tu vas lancer un nouveau produit, tu as envie d'être soulagé sur la partie stratégique, avoir un binôme juste pour le lancement. Bah, du coup, hop, un contrat de 2-3 mois en fonction de la période du projet, c'est complètement possible. T'as aussi des... Parce que ce que je me suis amusée à faire, et il y a beaucoup d'OBM qui font ça dans le milieu anglophone, c'est que moi, je ne peux pas être l'OBM à temps plein de plusieurs personnes. Donc, en fait, j'ai que deux clientes avec qui je bosse avec une vision à long terme, tu vois. Et après, j'ai un quota d'heures pour faire des prestations, soit en mode projet, comme je t'ai expliqué. Donc, là aussi, je suis sélective. Je choisis les projets qui m'emballent parce qu'il y a une forte demande dans la francophonie aujourd'hui. Les gens...
Exactement. C'est quoi, c'est pour ça que je suis contente qu'on fasse cet épisode, parce que quand moi j'ai cherché, franchement j'ai galéré. Alors j'ai cherché un peu sur Google, mais c'était pas ouf. J'ai tapé OBM sur Instagram, parce qu'Instagram en vérité c'est bien pour tout, et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup.
Il y en a
quelques-unes, mais il y a de la place à prendre à ce niveau-là, dans ce métier-là, en tout cas pour les personnes qui se reconnaissent dans ce type de profil.
Il y a de la place à prendre, c'est vraiment quelque chose qui se développe dans la francophonie, mais quand tu vas dans le milieu anglophone, voilà, chaque entrepreneur a sa OBM, les filles, elles sont au taquet, etc. Mais dans la francophonie, ça commence doucement. Il y a pas mal d'assistantes qui ont fait bras droit, qui commencent à tendre vers ça, tu vois. Mais c'est pas pour casser du sucre, hein. Mais vraiment, je pense qu'il y a un travail des compétences aussi à faire. Moi, j'ai la chance, en fait, comme je te dis, d'être dans la lignée de mes études. Tu vois, j'ai fait un master en management des organisations. Donc, ou gestion de projet, management des ressources humaines, c'était clair pour moi. Donc, je suis pas à côté. J'ai eu un bagage de formation qui fait que je suis en maîtrise de mon poste, tu vois. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est pour celles qui veulent devenir OBM, tu vois, c'est d'avoir des formations solides. Il y en a une qui existe, je sais, dans la francophonie, mais on est encore dans les débuts. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément de demandes. Moi, je sais que je dis non à plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai créé des petites offres one-shot pour des lancements, ou alors même des offres de consulting de 90 minutes où on se pose, on travaille sur un plan d'action pour donner de la matière à des personnes qui seraient vraiment bloquées et pour un peu servir tout le monde, même si ce n'est pas possible. Mais effectivement, comme tu le dis, s'il y a des personnes qui écoutent, qui se retrouvent un peu dans le profil, qui aiment l'organisation, l'intégration, la gestion business, en fait, s'intéresser à ce métier-là, franchement, pourquoi pas, parce qu'il y a un vrai, vrai, vrai marché là qui se développe en francophonie.
Carrément. En tout cas, je suis contente qu'on ait pu aborder le sujet et en tout cas plus d'informations pour que ce soit plus une notion floue et que d'ici quelques temps, le mot OBM soit vraiment intégré, tu vois,
chez
tout le monde. où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ?
Sur Internet, on me retrouve partout. Et si on avançait, pareil, le podcast, et si on avançait, partout, et si on avançait, en fait.
C'est bien parce que c'est pas compliqué.
Non, c'est pas compliqué. En plus, c'est trop bien parce que tu sais, quand tu démarres, tu peux te mettre un nom et t'arrives plus à t'en sortir, tu vois. Mais en fait, et si on avançait, ça passe pour tous mes projets, j'ai l'impression. Parce que
j'avoue.
Quand on fait de l'OBM, on avance. Quand on fait de la gestion du temps, on avance. Donc, et si on avançait, et voilà, partout, et si on avançait.
Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et puis pour tes conseils. C'était un plaisir de te recevoir et de discuter avec toi sur le sujet.
Merci à toi, Safia, pour l'invitation. En plus, je trouve ça important qu'on parle de ce métier qui, moi, me passionne. Donc, je suis trop contente d'avoir eu l'opportunité, du coup, de parler de ça avec toi aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Et voilà, nous sommes maintenant arrivés à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir à Marielle et à moi-même en nous écrivant un petit message sur Instagram et également à le partager autour de vous. Si vous souhaitez suivre le travail de Marielle et découvrir un peu ce qu'elle fait, vous retrouverez toutes les informations la concernant dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.